On va commencer et je rappelle les séminaires de la fin du mois d'octobre. Tout à l'heure à 11h, ce sera Pierre Pillet du laboratoire Aimé Coton à Orsay qui va nous parler de photoassociation moléculaire et molécules froides. Mardi prochain, le 26 octobre à 11h, ce sera Pierre Agostini du service DSM DRECAM de Saclay qui nous parlera de processus multiphotoniques dans les rayons X, UV et infrarouge et applications. Le 2 novembre, il n'y aura ni cours ni séminaire et j'espère la semaine prochaine être en mesure de vous annoncer les titres des séminaires des 4 mardis suivants de novembre. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours de la semaine passée sur les propriétés de cohérence d'un condensat. Et je rappelle d'abord très brièvement les résultats que nous avons établis la semaine dernière sur ces deux transparents. Ces propriétés de cohérence, par analogie avec l'optique, sont décrites de manière très commode aux moyennes des fonctions de corrélation. Fonction de corrélation d'ordre 1, G1 de R', valeur moyenne dans l'état étudié de psi croix de R, psi de R', où psi croix de R est l'opérateur création d'une particule au point R, psi de R', l'opérateur destruction d'une particule au point R'. Cette valeur moyenne décrit en quelque sorte la relation de phase, la corrélation qui existe entre les champs bosoniques en deux points R et R' différents de l'espace. Ça ne suffit pas pour caractériser le champ, il faut également des fonctions de corrélation d'ordre 2, 3, 4. Par exemple, l'ordre 2, G2 de R', c'est psi croix de R, psi croix de R', psi de R', psi de R, pris en valeur moyenne dans l'état étudié, et ceci représente la probabilité de trouver une particule au point R et une autre particule au point R'. Ordre 3, même chose, maintenant il y a 6 opérateurs, et cette quantité-là décrit la probabilité de trouver une particule au point R et une particule au point R' et une particule au point R seconde, et ainsi de suite. Et il est commode d'ailleurs de normaliser ces fonctions de corrélation en les divisant au dénominateur par racine carrée de G1 RR, G1 R' R' pour G1, et ainsi de suite pour G2 G3, et on obtient ainsi des fonctions de corrélation normalisées. La semaine dernière, j'ai calculé en détail les valeurs de ces fonctions de corrélation dans deux cas limites importants, le cas d'un condensat, un système condensé, et le cas d'un système d'un nuage thermique. Je rappelle brièvement ces résultats. Pour un condensat, lorsque n est très grand devant le nombre critique ou t très petit devant la température critique, on trouve que le module de G1 RR' est égal à 1. Il n'y a que la phase qui dépend de R moins R'. G2 de RR' est égal à 1 moins 1 sur n, c'est-à-dire pratiquement égal à 1 si n est macroscopique. G3 de RR' R' égale 1 moins 1 sur n que multiplie 1 moins 2 sur n, c'est aussi à peu près égal à 1 si n est macroscopique. Ces fonctions de corrélation ont été calculées dans un état de Fock où le nombre de particules est bien défini. Quand on a affaire à un nuage thermique avec une température très grande devant la température critique, ou un nombre très grand devant le nombre critique, à ce moment-là, il est justifié d'utiliser l'ensemble grand canonique, et nous avons trouvé pour G1, G2, G3, les fonctions normalisées, les résultats suivants. Pour G1, une gaussienne, ayant une portée finie qui est la longueur d'onde de De Broglie thermique, qui est en général extrêmement petite à température ordinaire. Pour G2, une forme très simple, c'est 1 plus G1 carré. Pour G3, de R', 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 c'est 1 plus G1 carré de R', plus G1 carré de R', R', plus G1 carré de R', R', plus deux parties réelles d'un produit de trois fonctions de corrélation d'ordre 1. Autrement dit, dans un système à l'équilibre thermodynamique, toutes les fonctions de corrélation d'ordre supérieur s'expriment en fonction de la fonction de corrélation d'ordre 1. Et si je fais tous les arguments égaux, R égale R' égale R', on trouve que G1 RR est égal à 1, G2 RR est égal à factoriel 2, c'est-à-dire à 2, G3 de RRR est égal à factoriel 3 égale 6, et vous voyez la différence très nette avec le cas d'un condensat où toutes ces quantités sont égales à 1. Donc on a ici une prédiction notablement différente pour le cas d'un condensat et le cas d'un nuage thermique. Alors je vais continuer maintenant, et aujourd'hui je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour revenir sur une difficulté que j'avais mentionnée à la fin du cours dernier, à savoir que l'ensemble grand canonique est très mal adapté pour étudier ce qui se passe sur un système sans interaction à très basse température. Il prévoit en effet des fluctuations énormes du nombre de particules condensées, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisque si on travaille avec un nombre fixe de particules et qu'elles sont condensées, le nombre de particules condensées ne fluctue pas. Ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble grand canonique qu'il faut prendre pour décrire ce qui se passe au vaginal de la condensation de Bose. Très en dessous de la condensation de Bose. Donc je voudrais maintenant ouvrir un petit peu une parenthèse sur cette difficulté, montrer que les difficultés disparaissent, tout au moins sont très atténuées, dès qu'on tient compte des interactions. Puis, je passerai en revue, parce que je pense que c'est intéressant, un certain nombre d'expériences qui ont essayé de tester ces prédictions récemment et qui ont apporté des résultats très convaincants. Et ensuite, je passerai au cours suivant qui, au lieu de prendre un seul condensat, va prendre deux condensats et on va essayer de discuter le problème de la phase relative entre deux condensats différents. Donc, je commence, si vous voulez bien, par fluctuation. Je crois que c'est le paragraphe, fluctuation de N0. N0 étant le nombre de particules condensées. Je vais calculer ces fluctuations, caractérisées par leur variance, c'est-à-dire delta N0 carré, qui est la différence entre la valeur moyenne du carré de N0 et la valeur moyenne de N0 au carré. Et je vais calculer donc cette variance et la comparer en prenant pour la description du condensat soit un état de Fock, soit l'ensemble grand canonique. Alors pour un état de Fock, le résultat est trivial, bien sûr. La valeur moyenne de N0 carré est égale à N0 carré, calcul élémentaire. La valeur moyenne de N0 est égale à N0, donc la valeur moyenne de N0 carré, c'est N0 carré, et delta N0 est nul. C'est évident. Si N0 est fixé, il ne fluctue pas, et la variance de N0 est nulle. Pour un ensemble grand canonique, il faut prendre, pour calculer N0 carré, il faut prendre la trace du produit par l'opérateur densité grand canonique de A0 croix A0, N0, qui multiplie A0 croix A0. Et on se trouve avec la valeur moyenne d'un produit de 4 opérateurs. Et là, on utilise le théorème de Wick, on met d'abord, en faisant le commuté A0 et A0 croix, on écrit cette quantité sous cette forme, et la valeur moyenne de ce produit de 4 opérateurs, c'est un produit de deux valeurs moyennes de deux opérateurs obtenus en prenant toutes les paires possibles d'un opérateur de création et d'un opérateur d'annihilation. Alors, j'ai cette manière de les associer, celui-là avec le premier et le quatrième, le deuxième et le troisième, ou bien le premier et le troisième, et le deuxième et le quatrième. Et j'obtiens chaque fois la même chose, j'obtiens 2N0 carré. Donc ceci vaut 2N0 carré, 2N0 moyen carré, ceci vaut N0 moyen, N0 moyen au carré, c'est N0 moyen au carré, quand 2 moins 1, ça fait 1, et j'obtiens finalement delta N0 carré égale N0 moyen carré plus N0, c'est-à-dire N0 moyen qui multiplie N0 moyen plus 1. Et vous voyez à ce moment-là que si N0 est très grand dans l'unité, ce qui est le cas d'une condensation, l'écart type delta N0 est de l'ordre de la valeur moyenne de N0, c'est énorme. Donc le nombre de particules condensées fluctue de manière géante. Qui plus est, si nous prenons la distribution des valeurs possibles du nombre de particules condensées, donnée par l'équilibre grand canonique, l'opérateur densité grand canonique, c'est 1 sur la grande fonction de partition exponentielle moins bêta H moins mu n. En l'absence d'interaction, l'opérateur densité se factorise, et rho, c'est le produit sur les états individuels à une particule K, de 1 sur Zg de la particule du état K, qui multiplie E puissance moins bêta, opérateur Nk, epsilon K moins U, moins mu. Si je prends l'état fondamental, la distribution des valeurs possibles de N0 est donnée par 1 sur Zg0, E puissance moins bêta N0 epsilon 0 moins mu, je m'aperçois que la probabilité de l'état N0 et de l'état N0, je passe de la probabilité d'occupation de l'état N0 à la probabilité d'occupation de l'état N0 plus 1 en multipliant par E puissance moins bêta epsilon moins mu qui est une plus petite que 1. On obtient donc une distribution d'occupation, de nombre de probabilité d'occupation qui est exponentiellement décroissante. Et le résultat absurde qu'on trouve, c'est que c'est l'état N égale 0, N0 égale 0 qui est le plus occupé, qui n'est pas du tout un résultat satisfaisant pour un condensat. Je trouve que l'état le plus probable, c'est qu'il n'y a pas de particules dans le condensat. Alors, nous allons maintenant montrer que ces difficultés sont atténuées si on prend en compte des interactions, même dans une simple théorie de champ moyen. Dans une théorie de champ moyen, et pour T beaucoup plus petit que TC, on peut continuer à décrire le condensat par un opérateur densité qui a la forme de grand canonique, qui est 1 sur ZG0, que multiplie somme sur N0 de 0 à l'infini, de E puissance moins bêta et de N0 moins mu de N fois N0, que multiplie l'état N0, le projecteur sur l'état N0, N0. Maintenant, attention, E de N0, c'est l'énergie de l'état où il y a N0 particules condensées, tenant compte des interactions. Donc c'est plus simplement une quantité proportionnelle à N0. Ça tient compte aussi des interactions. Et vous rappelez que les interactions sont de la forme G Nn-1 sur 2, toutes les paires possibles de deux particules qu'on peut faire, somme de D3R, de psi de R en module au carré, en module à la puissance 4. Alors si n est grand, ceci c'est de l'ordre de Gn2 sur 2. Psi de R, c'est 1 sur L puissance 3,5 dans une boîte. Donc à la puissance 4, ça va faire 1 sur L6. Intégré sur D3R dans le volume de la boîte, ça va multiplier par L3. Donc c'est 1 sur L6 qui multiplie L3. Et ceci me donne donc G sur 2, N2 sur L3. Et vous voyez maintenant que l'énergie d'un condensat de n particules ne dépend plus linéairement de n, mais quadratiquement. Et nous allons voir que ceci permet de résoudre une partie des difficultés précédentes. En effet, si je considère maintenant... Alors ici, je suis un traitement qui était donné par Yvan Castin dans un cours de l'option de physique quantique, et de la physique quantique. Si je prends cette exponentielle-là, le maximum de la probabilité d'occupation de l'état N0, ce sera donné par la quantité qui minimise l'argument de l'exponentielle. Donc c'est la valeur la plus probable, N0 bar de N0, c'est la valeur qui minimise E de N0 moins mu de N0. Donc il faut que je prenne D sur DN0 de E N0 moins mu N0 pour N0 égale N0 bar égale 0. Et ça va me donner cette équation pour mu. Et ça me définit N0 bar. Plaçons-nous au voisinage de N0 bar et développons l'argument de l'exponentielle. Alors on peut écrire moins bêta et de N0 moins mu N0 égale moins bêta et N0 bar moins mu N0 bar plus le terme d'ordre 1, N0 moins N0 bar qui multiplie la dérivée, mais qui est nul par définition de N0 bar, c'est là que la dérivée s'annule, plus moins bêta sur 2 N moins N0 bar au carré, D2 sur 2 N0 2 et de N0 pour N0 égale N0 bar. Alors pour un gaz de boson dans une boîte L3, pour un système homogène, alors là je reprends ce que j'ai écrit dans les notes qui n'est pas correct. Il faut partir de l'expression de N0 et mu dans la description canonique c'est un paramètre qui ne dépend pas de N. Mu c'est un paramètre comme T. Donc il faut revenir à N0 qui est écrit ici. Je dérive par rapport à N0, j'obtiens mu égale Gn0 bar sur L3, c'est G rho bar, la densité moyenne. Et la dérivée seconde de E de N0 par rapport à N0 2, c'est G sur L3. Et on en déduit que P de N0, la probabilité d'occupation de l'état N0, c'est exponentielle moins 1,5 de bêta G sur L3, N0 moins N0 bar au carré. C'est une gaussienne centrée autour de N0 bar. Et une gaussienne, sa variance est proportionnelle à l'argument qui est ici. Et on voit que delta N0, l'écart type, c'est racine de L3 sur bêta G. C'est L3 sur N0 bar, N0 bar sur bêta G. C'est racine de N0 bar qui multiplie KBT sur rho bar G. On trouve donc une distribution des probabilités d'occupation des états N0 qui est donnée maintenant par une gaussienne qui, au lieu, qui n'est plus une exponentielle, la valeur la plus probable n'est plus n égale 0, mais n0 égale n0 bar, et la dispersion, l'écart type des valeurs de n0 autour de la valeur la plus probable est proportionnelle à racine de n0 bar et n'est plus égale à n0 moyen. Donc un tel résultat donc montre que dès qu'on tient compte un petit peu des interactions, il n'est plus scandaleux d'utiliser l'ensemble grand canonique. Ces fluctuations géantes de la population d'état fondamental sont supprimées. Bon, cette parenthèse étant fermée, je continue ce paragraphe en passant maintenant à quelques vérifications expérimentales. peut-on vérifier les prédictions sur les fonctions de corrélation G1G2G3 que nous avons brièvement esquissées la semaine dernière? Alors, pour G1, l'expérience consiste à étudier, comme en optique, le contraste de franges d'interférence obtenues en faisant interférer deux ondes de matière. Soit on prend deux condensats différents, piégés, on coupe les pièges, donc les condensats tombent et subissent une expansion balistique, au bout d'un certain temps ils se recouvrent, et dans la zone de recouvrement, on essaye de voir des interférences. Ou bien, autre expérience qui a été faite encore plus récemment, on laisse s'échapper d'un condensat unique, mais de deux points différents des ondes de matière, qui apportent une information sur la phase du condensat en ces deux points, et on fait interférer ces deux ondes de matière. Et on regarde le contraste des franges d'interférence. Ces deux expériences jouent un rôle très important, et je leur consacrerai une ou deux séances juste pour elles. Hein. En particulier, la prochaine séance, je commencerai à parler de la première, de l'interférence, de l'expérience d'interférence entre deux condensats différents. Aujourd'hui, je vais surtout parler de G2 et G3. G2, qui donne la probabilité que deux particules soient l'une en R, l'autre en R'. G2 intervient dans le calcul de l'énergie d'interaction d'un condensat, et elle peut être mesurée expérimentalement en mesurant l'énergie cinétique libérée lorsqu'on coupe le piège et le condensat subit une expansion balistique. Donc ça, c'est une première possibilité pour étudier G2. Quant à G3, G3 donne la probabilité pour que trois particules soient en R, R' et R seconde, et quand R, R' et R seconde tendent l'un vers l'autre, ça donne la probabilité pour que trois particules s'approchent très près les trois l'une de l'autre, et ceci intervient évidemment dans l'expression du taux de collision inélastique qui joue un rôle très important dans les pertes des condensats. Donc je vais passer en revue maintenant les études sur G2 et sur G3. D'abord G2. Donc je vais commencer par G2. Dans la première séance de cette année, j'ai rappelé un résultat obtenu l'an dernier, à savoir que si on est dans le régime de Thomas Fermi, où l'énergie cinétique est très petite, et si on coupe brusquement le piège, le condensat explose, et si on mesure l'énergie finale du condensat, qu'on appelle l'énergie libérée, ce qu'on mesure en fait, c'est l'énergie d'interaction du condensat initial dans le piège. Donc, la mesure de cette énergie cinétique libérée donne une mesure directe, expérimentale, de l'énergie d'interaction. Or, qu'est-ce que c'est que l'énergie d'interaction? C'est 1/2, elle est encore écrite là-bas, hein, somme de D3R, D3R', psi croix de R', psi croix de R, psi croix de R, psi croix de R', D de R moins R', psi de R', psi de R. C'est donc 1/2, somme de D3R, D3R', V de R moins R', l'énergie d'interaction, qui multiplie la probabilité d'avoir une particule en R et une particule en R'. Si je prends cette expression simplifiée pour V, 4 pi h bar 2 sur m a, je crois que j'ai oublié a dans les notes, delta de r moins r', à ce moment-là, une des intégrales s'en va, et j'obtiens E interaction égale 2 pi h bar 2 sur a, sur m petit a, somme de d3r, g2 rr. Si je me rappelle maintenant que la fonction de corrélation d'ordre 2 normalisée petit g2 de rr, c'est grand G2 de RR divisé par G1 de RR, G1 de RR, c'est-à-dire G2 de RR divisé par rho de R au carré. Je peux écrire G2, grand G2 de RR égale rho de R au carré, G2, petit G2 de RR. Et j'obtiens une expression pour l'énergie d'interaction qui est 2 pi h bar 2 sur m petit a, somme de D3R, rho de R au carré, G2 de RR. Alors, si rho de R est donné, vous voyez que suivant que je prends un condensat, c'est-à-dire G2 de RR, égale à 1, ou suivant que je prends un nuage, pardon, ça c'est un nuage, suivant que je prends un condensat G2 de RR vaut 1, ou un nuage thermique G2 de RR vaut 2, il y a un facteur 2 de différence, donc ça doit pouvoir être distingué. Donc voilà deux prédictions qui diffèrent l'une de l'autre par un facteur 2, donc on peut regarder maintenant expérimentalement. Ceci a été fait par Ketterle et Misner, dans la référence 2 que je vous ai donnée. Ils ont réinterprété des nombreux résultats qui existaient. On mesure expérimentalement l'énergie libérée, et par photographie du nuage, on mesure la densité spatiale, ρ de R. On connaît par ailleurs, si on le connaît, la longueur de diffusion petit a, et la comparaison du résultat mesuré et de l'expression théorique permet de déterminer si G2 est égal à 1 ou à 2. Alors voici quelques résultats sur le sodium. Plusieurs déterminations ont été faites de la longueur de diffusion. En voilà une qui donne G2 égale 1,25 plus ou moins 0,58. Une autre qui donne G2 égale 0,81 plus ou moins 0,29. Pour le rubidium, 1,0 plus ou moins 0,2. Vous voyez que tous ces résultats sont compatibles avec G2 de RR égale 1 et incompatibles avec G2 de RR égale 2. Donc on a ici une preuve expérimentale de la différence entre G2 pour un condensat. On a bien un condensat. Je voudrais mettre en parallèle ces résultats expérimentaux obtenus sur des condensats avec une expérience beaucoup plus difficile, en fait, qui a été faite quelques années auparavant, je crois en 1996, par l'équipe de Fujio Shimizu à Tokyo, où ils ont mesuré G2 sur un jet thermique ordinaire, qui n'est pas condensé. Et auquel cas, on prévoit G2 égale 2. En fait, ils n'ont pas fait une expérience de corrélation spatiale, ils ont fait une expérience de corrélation temporelle. Mais ça revient au même. Ils mesurent les corrélations entre la probabilité de trouver un atome à l'instant T et un atome à l'instant T'. Et ils mesurent G2 de TT, c'est-à-dire les coïncidences, la probabilité de trouver les atomes très proches l'un de l'autre. Très rapidement, je vous renvoie à l'expérience à publication. Voilà le montage expérimental, décrit dans la référence 3. Ils partent d'une source de néon métastable. Et pour avoir une source ponctuelle, il y a une astuce qui consiste à focaliser un faisceau laser sur le nuage d'atomes piégés qui fait sortir les atomes du piège uniquement au foyer du faisceau laser. Il pompe optiquement les atomes en dehors du niveau dans lequel ils sont piégés, il les évacue en dehors du piège et ils tombent à ce moment-là. Ça permet d'avoir une source avec quelques microns d'étendue, de diamètre. Les atomes tombent, avec des lentilles électrostatiques, on peut plus ou moins focaliser le jet, et on le fait tomber ici sur un détecteur, coupé en quatre, parce que quand les atomes métastables tombant sur le détecteur donnent une gerbe d'électrons, et le détecteur met un temps à s'en remettre. Donc il regarde les coïncidences d'arrivée d'un atome sur une partie du détecteur et d'un atome sur une autre partie du détecteur qui n'a pas été perturbé par le premier. Et puis on détecte les électrons avec un détecteur multicanal. Et alors il faut faire très attention parce qu'il faut que la surface du miroir du détecteur coïncide parfaitement avec l'aire de cohérence du faisceau atomique. Donc il faut un problème d'ajustement du détecteur qui est très très critique. Médition arrivée. Et voilà le signal. La probabilité de détecter deux atomes séparés par un instant T, en fonction de T, lorsque la surface du détecteur est plus petite que l'aire de cohérence du faisceau lumineux, auquel cas on a vraiment accès à G2 TT'. Et vous voyez très clairement que le signal, malgré un bruit important, passe d'une valeur à la valeur moitié. Donc G2 de TT plus tôt varie d'un facteur 2 quand tôt varie de 0 à l'infini. Par contre, si la surface du détecteur atomique est beaucoup plus grande que l'aire de cohérence, l'effet précédent se brouille et on n'a plus cet effet de groupement des atomes au niveau du détecteur. À ma connaissance, une expérience de ce type n'a pas été recommencée sur les atomes qu'on pourrait sortir d'un condensat en le faisant tomber sur un détecteur. Je passe maintenant à G3. À densité suffisamment élevée, les pertes d'atomes d'un condensat sont essentiellement dues à des collisions inélastiques à trois corps. Ce qui se passe, c'est que trois atomes entrent en collision, deux par exemple s'unissent pour former une molécule. Alors normalement, s'il n'y avait que deux atomes, ils ne peuvent pas former une molécule parce que à ce moment-là, il n'y a rien pour conserver la quantité de mouvement et l'énergie simultanément. Mais s'il y a un troisième partenaire, le troisième partenaire peut amener l'énergie et l'impulsion qui manquent. Donc, deux atomes sont formés une molécule, la molécule évidemment n'est plus piégée, disparaît, puis le troisième atome en général part du piège, donc c'est un processus de perte des atomes. Pour qu'une collision à trois corps se produise, il faut bien sûr que la densité soit suffisamment élevée pour que la probabilité d'avoir trois atomes arrivant proches l'un de l'autre soit importante. Et on peut montrer aisément, on se convainc aisément, que le taux de collision à trois corps est proportionnel à G3 de RRR. Or, comme nous l'avons vu, la valeur de petit G3 de RRR est égale à 1 pour un condenseur et la factorielle 3 égale 6 pour un nuage thermique. Donc le taux de collision à trois corps doit varier de manière spectaculaire quand on passe d'un condensat à un nuage thermique. Et l'équipe russe de Kagan, Zvitlinov et Sviatikov, dès, je crois, les années 80, c'est la référence 5, oui, dès 85, dans un article à JETP Letters, proposait d'utiliser le taux de collision élastique comme indicateur de la transition de Bose-Einstein. En fait, une mesure directe de G3 a été faite récemment par l'équipe de Cornell et Wyman à Boulder, c'est la référence 5 que j'ai donnée. Et je voudrais maintenant rapidement décrire cette expérience, qui est une très belle expérience. D'abord, je voudrais vous rappeler ici une figure extraite de cette référence et qui montre très clairement la variation de la fonction de corrélation G3 de R, R', R' avec R' moins R et R' moins R pour un nuage thermique. Alors ici, en ordonnée, pardon, sur l'axe Z, ici c'est G3, petit G3. Ici c'est X qui est R2 moins R1. Et en Y, c'est R3 moins R1. Donc ici, je prends R1, R2, R3, et j'étudie petit g de R1, R2, R3 en fonction de R2 moins R1 et de R3 moins R1. Normalisé par rapport à, il appelle lambda d, ce que j'appelle moins lambda t, la longueur d'onde de degré thermique. On obtient cette surface, et vous voyez que si on coupe cette surface par un plan x égale y, on obtient une courbe qui est dessinée ici, qui passe de 6 à 1 quand la distance des deux points varie de 0 à l'infini. La décroissance typique se faisant sur une échelle de l'ordre de la longueur d'onde de Debye thermique. Alors que pour un condensat, on aurait quelque chose qui reste égal à 1. Donc un effet énorme, un facteur 6 ici, entre ces deux valeurs. Par contre, si je me place très loin en X, c'est-à-dire si R2 est très grand devant R1, et si je varie Y, à ce moment-là, l'un des points est très loin, il n'y a plus qu'une seule fonction de corrélation qui intervient, et à ce moment-là, G3 est égal à G2, et on obtient par la section par le plan X égale 2 dans une courbe qui passe de 2 à 1, c'est la courbe que j'ai donnée tout à l'heure pour G2. Et voilà pour le condensat, hein, et pour le nuage thermique, ça passe de 2 à 1. Alors comment l'expérience a-t-elle été faite? Si on porte en fonction du temps le nombre de particules dans le piège, ce nombre décroît à cause des pertes. Quand on est au temps très long, on a peu d'atomes, donc les collisions inélastiques sont très faibles, et à ce moment-là, la perte d'atomes est essentiellement liée aux collisions avec le gaz résiduel. Elle donne une décroissance exponentielle qui apparaît par une droite ici, en coordonnée log de n en fonction du temps. Par contre, au temps court, ici, la densité est encore très forte, les taux de collision inélastiques sont importants, et l'extrapolation de la courbe linéaire ici ne marche plus, de sorte que l'écart entre cette courbe linéaire et les points expérimentaux donne la contribution des collisions inélastiques. Et c'est cette partie qui est intéressante. Alors, ce que ce groupe a fait ensuite, c'est qu'il s'est intéressé à la décroissance de ce terme dû aux collisions inélastiques. À ce moment-là, dn sur dt dû aux collisions inélastiques à trois corps, c'est égal à moins kappa, où kappa est proportionnel à G3, c'est le taux de collision inélastique, intégrale sur D3R de n cube de R et de T, parce que ça représente la probabilité de 3 particules K, N3, ça représente la probabilité que 3 particules soient proches l'une de l'autre, le même type de calcul que tout à l'heure. Donc K est proportionnel à G3 de RR, et puis ici on a N cube. Et si je divise les deux membres de cette équation par 1 sur N de T qu'on intègre de 0 à T, on obtient logarithme de N de T sur N0 dû aux collisions inélastiques à 3 corps, égale moins kappa, somme de 0 à T de DT', intégrale sur V de D3R, N cube de RT' sur N de T'. Alors, si on appelle, si on peut à chaque instant mesurer, c'est pas une expérience facile, il faut à chaque instant mesurer le nombre de particules piégées, et à chaque instant mesurer le profil des particules piégées, N de R et de T'. Si on appelle cette quantité N carré moyen, T', la pente de la courbe donnant logarithme de N de T sur N0 corrigé du terme de collision dû avec le gaz résiduel en fonction de cette quantité-là, le somme de 0 à T de DT' N carré, est proportionnel à kappa, donc à G3 de RRR. Voilà les résultats expérimentaux. Donc ce logarithme plus T sur T en fonction de cette quantité-là, on obtient bien des droites. Les triangles pleins ici, c'est relatif à des conditions expérimentales où on a un condensat. Les ronds, les triangles vides ici correspondent à des conditions expérimentales où il n'y a pas de condensat, on a un nuage thermique uniquement. Et vous voyez très clairement que le rapport des pentes n'est pas le même. Les pentes ne sont pas les mêmes. Et que le rapport mesuré des pentes est 7.4 plus ou moins 2.6. Il est tout à fait compatible avec la valeur 6 prévue. On prévoit théoriquement que quand on normalise tout, le taux de collision à trois corps doit être 6 fois plus grand pour un nuage thermique que pour un condensat, parce que G3 est 6 fois plus grand pour un nuage thermique que pour un condensat. Donc il y a ici une évidence expérimentale très claire sur cet effet, sur cette différence de G3 entre un condensat et un nuage thermique. Je ne peux pas quitter ce sujet sans mentionner honnêtement une difficulté que personnellement je rencontre et que je ne sais pas très bien résoudre. C'est que font les interactions dans ce problème? Les valeurs G2 de RR égale 1 et G3 pour un condensat et G2 RR égale 2 pour un nuage thermique ont été établies en négligeant les interactions. Idem pour G3. Or, en présence d'interactions, nous avons vu l'an dernier, et je vous l'ai rappelé au cours de la première séance de cette année, que si on prend par exemple la théorie de Bogoliubov, on trouve que grand G2 de RR' tend vers 0 quand R-R' tend vers 0. À cause des interactions et du cœur dur répulsif d'interaction qui empêche les deux atomes d'être au même point. Et la largeur du trou est donnée par la longueur de relaxation. De même, G3 de RR' la seconde doit s'annuler quand R' et R seconde tendent vers R, à cause du cœur dur d'interaction. Bon, alors, on a pris ici 1 et 2. Je pense que si le gaz est suffisamment dilué, le trou au voisinage de l'origine joue un rôle faible et introduit des corrections qui sont faibles quand le milieu est dilué suffisamment, et qui ne peuvent plus être négligées si le milieu devient très concentré. Une autre manière de le voir, il me semble, c'est que le comportement de G2 et G3 qu'on n'est pas dans le trou, mais juste à l'extérieur du trou, que les particules sont quand même très proches, le trou n'est pas très large, hein. Ça représente la situation où trois particules sont en train de s'approcher l'une de l'autre pour subir une collision inélastique à trois corps. Donc, il y a des corrections liées aux interactions, mais ces corrections sont insuffisantes pour éliminer l'effet spectaculaire dont j'ai parlé précédemment. Mais en fait, par exemple, dans l'article de Cornell Wyman, il n'y a aucune mention de ces corrections éventuelles liées aux interactions. Bon, j'en ai fini donc avec ce chapitre. Et j'aborde maintenant un nouveau chapitre du cours. Qui est la phase relative. De deux condensats. Je voudrais d'abord, si vous voulez, un peu poser le problème et expliquer un petit peu ce que je compte faire dans ce paragraphe. J'ai longuement insisté la semaine dernière sur le fait que la phase absolue d'un condensat n'a pas de sens physique. Par contre, la différence de phase entre deux points d'un même condensat, elle, a un sens physique. On peut dire aussi que si maintenant je prends non pas un seul condensat, mais deux condensats, on peut se poser la question de la différence de phase entre les deux condensats. Et cette différence doit intervenir, bien sûr, quand je laisse ces deux condensats se recouvrir et interférer. À ce moment-là, l'état d'interférence dépend de la différence de phase entre les deux condensats. Donc la question que je voudrais discuter ici, est-ce qu'on peut introduire des états quantiques qui décrivent deux condensats ayant une phase relative phi bien définie? Quels sont ceux qui sont les plus communs à utiliser pour les calculs et pour la discussion physique des problèmes? En particulier, une question intéressante, si on peut parler d'une phase relative entre deux condensats, quelle est la grandeur conjuguée de phi? S'il y a une bonne précision sur phi, c'est qu'il y a une autre variable sur laquelle on n'a pas de bonne précision, laquelle c'est? Alors, il y a un problème que j'aborde pas maintenant, mais auquel je consacrerai beaucoup de temps par la suite, c'est si je prends deux condensats qui, au début, n'ont pas une phase relative bien définie, comment cette phase relative peut-elle apparaître dans une expérience? Alors peut-être, comme toujours, c'est utile de revenir à l'optique et de se poser la question phase relative de deux faisceaux lumineux. Comme dans tout phénomène d'interférence, il y a deux types de situations limites qu'on peut envisager. Soit on part du même système, on le coupe en deux et on regarde la différence de phase entre les deux systèmes qu'on a obtenus. C'est la plupart des phénomènes d'interférence en optique, c'est comme ça. Par exemple, on peut très bien prendre un faisceau lumineux I et le faire passer sur une lame semi-transparente, avoir un faisceau A et un faisceau B, avec deux modes A et B. Même si la phase initiale du faisceau I n'est pas bien définie, la phase relative de A et B, elle, est bien définie par contre. Deuxième type de situation extrême, carrément on prend deux faisceaux laser différents et on les laisse se recouvrir sur un détecteur. Question, peut-on observer des fronts d'interférence et dans quelles conditions? Le même type de problème peut se poser sur les ondes atomiques qui sont étudiées maintenant de plus en plus. L'équivalent de la lame séparatrice, ce serait de prendre un condensat et d'appliquer à ce condensat une onde de radiofréquence qui induit des transitions de radiofréquence entre l'état piégé et un état qui n'est pas piégé, ou d'introduire une induction optique, Raman ou Bragg, qui coupe l'état piégé à un état qui n'est pas piégé. Et à ce moment-là, on obtient un faisceau qui sort du condensat, un faisceau de sortie, qui évidemment aura une phase relative bien définie par rapport au condensat dont il est issu. Donc on part d'un même système et on en fait deux. Le condensat et un faisceau qui sort. C'est ce qu'on appelle le problème du coupleur de sortie, output coupler en anglais. Un autre type de situation, qui est l'équivalent de l'interférence entre deux faisceaux laser, on prend deux condensats indépendants qui ne se sont jamais rencontrés, on les approche et on les laisse se recouvrir. Est-ce qu'on peut observer des freins d'interférence? Alors, je vais commencer, si vous voulez, par un premier type d'état qui présente une phase relative bien définie, que je pourrais appeler les états de phase. De phase relative. Ce sont des états qui font intervenir deux états atomiques. J'utiliserai par analogie optique mode, entre guillemets, deux modes. Deux modes du champ d'un système atomique. Alors, les états de phase que je vais introduire là sont obtenus à partir d'un état de Fock, N, où le nombre total de particules est bien défini, en faisant subir à chacun des atomes qui est dans l'état de Fock l'effet d'une impulsion de radiofréquence ou d'une impulsion optique de Bragg ou Raman qui prépare chacun de ces atomes dans une superposition linéaire de deux états A et B. Donc j'ai un atome dans le même état et chacun de ces atomes est transformé dans une superposition linéaire bien définie de A et B, la même pour tous les atomes qui sont dans l'état N. Donc, c'est un état où le nombre total de particules est bien défini, mais où la phase entre les deux états, les deux mondes, est elle aussi bien définie. Alors, je vais établir l'expression mathématique d'un tel état, et à partir de cette expression mathématique, on pourra discuter aisément quelle est la variable conjuguée de phi. Alors, la notation que j'utiliserai pour un tel état, c'est n phi, il y a n bosons, et phi, c'est la phase relative entre les deux états A et B dans lesquels je mets chacun d'eux. Alors, comme toujours, dans les problèmes de bosons, il est commun d'utiliser une formuline de la seconde quantification qui automatiquement inclut la symétrisation. Et je vais introduire l'état 1 phi, une particule avec une phase relative bien définie, comme C croix 0, opérateur C, création C croix, agissant sur le vide, où C croix, c'est alpha A croix, plus bêta B croix et puissance moins I phi. A croix, c'est l'opérateur création d'un boson dans l'état A, B croix, c'est l'opérateur création dans l'état B, et C croix, c'est l'opérateur création d'un boson dans l'état alpha A plus bêta et puissance moins I phi B. J'ai supposé, si vous voulez ici, alpha et bêta réel, et j'ai supposé alpha 2 plus bêta 2 égale 1. Donc l'opérateur C croix, c'est l'opérateur qui me crée un boson dans cette superposition linéaire bien définie de A et B. En toute rigueur, ma notation ici n'est pas complètement explicite, il aurait fallu que je mette aussi alpha bêta. Parce qu'il faut mettre aussi les amplitudes réelles des deux états dans lesquels je mets chacun des bosons. Mais je ne veux pas trop compliquer la notation. Alors, quel est maintenant un état n phi, où il y a n particules dans cet état-là? Ben, l'état n phi, c'est, je prends l'opérateur C croix, à la puissance n, je vais agir sur le vide, et ça c'est pas normé, je divise par 1 sur racine de factoriel n. Donc ça c'est n bosons, tous dans l'état alpha petit a plus bêta et puissance moins ici petit b. Alors je développe C croix à la puissance n en prenant ceci, et j'obtiens évidemment 1 sur racine de factoriel n, somme sur n de 0 à n, de factoriel n sur petit n factoriel n moins petit n factoriel, alpha n moins petit n, bêta petit n et puissance moins n phi, a croix à la puissance n moins petit n, b croix à la puissance n, agissant sur le vide. Ça c'est pas normé, il faut que c'est égal à l'état normé Na égale grand N moins petit n particule dans l'état A, Nb égale petit n particule dans l'état B, qui multiplie racine de factoriel n moins petit n, factoriel n. De sorte que cet état, n phi, je le réécris ici, explicitement, vous voyez que c'est une certaine superposition linéaire bien définie, d'état où j'ai Na particule dans l'état A, Nb particule dans l'état B avec Na plus Nb égale grand N, et une superposition linéaire de ces états. Alors, quelques remarques d'abord. L'état N phi ne peut pas être écrit sous la forme d'un produit d'un état du mode A par un état du mode B. Ce n'est pas un état produit. C'est un état intriqué, en anglais entangled state, qui décrit des corrélations non séparables entre les deux modes. Deuxième remarque, le nombre total de particules est bien défini. Na plus Nb est égal à N, mais le nombre de particules dans l'état A et le nombre de particules dans l'état B ne sont pas définis chacun, bien qu'étant, il y a une corrélation très étroite entre eux, puisque Na plus Nb égale N. Alors, pour caractériser ici justement cette dispersion des valeurs possibles de petit Na et de petit Nb, je peux calculer les valeurs moyennes et les variances de l'opérateur Na égale à croix A et Nb, B croix B, des nombres de particules dans les états A et B. Évidemment, les valeurs moyennes sont liées par cette relation, et comme les deux Na et Nb sont corrélés par Na plus Nb égale N, la variance de l'un est égale à la variance de l'autre. Le calcul de delta de Na et delta Na ne pose pas de problème. P de Na, c'est je prends l'état Nφ, je le projette sur cet état-là, et je prends le modulo carré, et j'obtiens cette quantité-là. Factoriel n sur factoriel na, factoriel de n moins petite na, alpha 2 à la puissance na, bêta 2 à la puissance n moins petite na. Comme bêta 2 égale 1 moins alpha 2, on reconnaît ici une loi binomiale de probabilité p égale alpha 2. Je connais immédiatement le résultat pour la loi binomiale. La valeur moyenne, c'est n fois petit p, n alpha 2. Et la variance, c'est la somme des variances, c'est n fois petit p à moins p, c'est n alpha 2 bêta 2. Donc je trouve que dans l'état de phase, le nombre de particules dans l'état A fluctue autour de sa valeur moyenne, n alpha carré, avec un écart type qui est donné par alpha bêta racine de n. Là encore, retour dans un état bien typique, la valeur absolue de l'écart type est très importante, mais sa valeur relative par, divisée par la valeur moyenne est très petite devant l'unité. Donc on a NA bien défini en valeur relative tout en ayant une grande dispersion absolue. Si j'ai fait le calcul pour A, c'est pas peine de recommencer pour B, puisque je sais que les deux grandeurs sont corrélées. On trouve que la dispersion sur l'écart est égale à delta NA plus delta NB. C'est 2 delta NA, c'est donc 2 alpha bêta racine de N. Donc la dispersion sur la différence entre NA et NB est égal à 2 alpha bêta racine de n. Alors, tant que j'y suis, j'ai un état qui est corrélé. Si je m'intéresse uniquement au mode A ou au mode B, il faut que je le décrise par un opérateur densité que j'obtiens en traçant par rapport au système auquel je ne m'intéresse pas. Donc, l'opérateur densité réduit du mode A, c'est la trace sur B de n phi n phi. Je trace par rapport à la grandeur à laquelle je ne m'intéresse pas. C'est donc somme sur B de NB, NB, N phi, N phi, NB. C'est donné par cette valeur-là. Comme j'ai le même NB là, et que NA plus NB est bien fixé, je dois forcément avoir le même NA là aussi. Et je m'aperçois immédiatement que l'opérateur densité réduit pour A, c'est une somme de projecteurs sur les états NA. Il n'y a pas d'éléments non diagonaux entre NA et N' différent de NA. C'est une mélange statistique d'états de forme pour A avec une distribution de probabilité qui est là aussi une loi binomiale. D'accord. Donc si je m'intéresse uniquement à un seul système, c'est un mélange statistique d'états de forme. Bien sûr, NA n'est pas bien défini. Il peut prendre cette valeur, peut prendre cette valeur. Mais il n'y a pas d'éléments non diagonaux de l'opérateur densité entre NA et N' différent de NA, auquel on ne saurait pas donner de sens physique. De même pour NB, on a NB en opérateur diagonal. Alors maintenant qu'on a introduit l'état de phase relatif, on peut très bien prendre des mélanges statistiques d'état de phase. N phi, avec des phases phi différentes. On peut ainsi introduire, alors cela ça peut se faire qu'au niveau de l'opérateur densité, bien sûr, on peut définir un opérateur densité rho chapeau, qui est la somme des projecteurs n phi n phi sur l'état de phase phi, pondéré par un certain poids w de phi et intégré sur phi. W de phi étant la distribution de probabilité des phases relatives. Quand on fait ça, on trouve pour rho chapeau une expression de ce type, que je ne relis pas, mais tous les phi se regroupent ici en somme de 0 de pi de dφ w de phi et puissance i n' moins n phi. Et vous voyez maintenant que j'ai des projecteurs entre un état na, nb égale n, na égale n moins n', nb égale n', mais le nombre total de particules ici est toujours le même, parce que j'ai toujours superposé, j'ai toujours fait des mélanges statistiques avec la même valeur de n. Alors, premier cas, je prends W de phi équiparti. Donc, je prends des mélanges statistiques d'état de phase avec une phase relative phi complètement aléatoire, équiparti entre 0 et 2 pi. À ce moment-là, cette intégrale est triviale. Elle me donne delta nn prime. Et je trouve à ce moment-là que rho tilde, rho chapeau, c'est un mélange statistique d'état grand N moins petit n, petit n, NA égale grand N moins petit n, NB égale petit n, avec des poids qui sont ici. Donc, quand je prends un mélange statistique avec toutes les valeurs possibles de phi, j'obtiens un mélange statistique d'état de Fock. Et dans un état de Fock, NA et NB sont bien définis, ne fluctuent pas. Alors, ne pas confondre le fait qu'ensuite, maintenant, dans le mélange statistique, NA peut prendre plusieurs valeurs, NB peut prendre plusieurs valeurs. Ça, c'est un mélange statistique, il n'y a pas de cohérence entre deux états NA et N' différents de 0. Pour chaque état du mélange statistique, NA et NB sont parfaitement bien définis. Et donc NA moins NB est aussi parfaitement bien défini. Alors dans le cas général, si je ne suppose pas que W de phi est aléatoire, je dois calculer cette intégrale qui dépend de n' moins 1. Et j'obtiens une certaine fonction k de n' moins n qui est la transformée de Fourier de W de phi. Et je m'aperçois que k de n' moins n, ça va être une fonction de n' moins n qui va être d'autant plus étroit que W de phi est large. Si phi est bien défini, c'est-à-dire si W de phi est une fonction delta, d'accord ? À ce moment-là, j'ai trouvé que delta de n a moins nb était de l'ordre de racine de n. Si maintenant phi était que parti entre 0 et 2π, c'est un mélange statistique dans lequel na et nb sont très bien définis, donc na moins nb ne fluctue pas, delta de na moins nb égale 0. Et dans le cas général, delta de na moins nb sera d'autant plus grand que delta phi est plus petit. Donc on voit apparaître ici la grandeur conjuguée de phi. En quelque sorte, la grandeur conjuguée de phi, c'est la différence na moins nb entre le nombre de particules dans les modes A et B. Je vais maintenant, pour terminer, dans les minutes qui me restent, introduire un deuxième type d'état qui est encore plus commun que les états seuls, qui est ce qu'on appelle les états cohérents relatifs. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, je vous avais dit qu'on pourrait être tenté de décrire un condensat par un état cohérent. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait dans ce qu'on appelle les théories à symétrie brisée. Qu'est-ce que c'est qu'un état cohérent? Je réécris ici, un état cohérent, c'est défini par un nom complexe d'amplitude A et de phase phi A, A et puissance phi A, et c'est l'état cohérent, la généralisation au champ de boson de l'état cohérent de Glauber, et puissance moins A2 sur 2, somme sur n de 0 à l'infini, de A à la puissance n sur racine de factoriel n, et puissance in phi A, que multiplie l'état choc n. C'est une superposition d'état de nombre de particules totales différentes, pour lequel on ne sait pas très bien donner un sens physique. Mais introduisons-le mathématiquement ici, introduisons de même l'état B et puissance I phi B pour le condensat B, A et B donc amplitude réelle, phi A et phi B phase absolue de chaque condensat, et phi égale phi A moins phi B la phase relative. Alors, une manière commode de décrire deux condensats mathématiquement, c'est de prendre pour état décrivant le système de deux condensats, l'état produit tensoriel A et puissance I phi A, que multiplie B et puissance I phi B, qui est aussi et puissance I phi A moins phi. Mais on ne sait pas donner un sens physique à cet état, parce que la phase phi A absolue n'a pas de sens physique, d'où l'idée, on va prendre un état cohérent produit, et au lieu de le considérer tout seul, on va prendre un mélange statistique d'états cohérents de ce type, avec phi fixé, mais phi A est plus parti entre 0 et 2π. Et c'est ça que j'appellerais un état cohérent relatif. C'est une matrice densité, un opérateur densité, obtenu en prenant un mélange statistique de deux états cohérents, de phase phi relative fixée, mais de phase absolue phi A est parti entre 0 et 2π. Voilà donc la définition. Alors il faut s'assurer maintenant que cet état lui n'est pas pathologique et qu'il n'a pas de cohérence entre états n et n' différents. On va donc le calculer. Quelle est son expression? Et je vais le noter, si vous voulez, rho. Je peux le noter que par un opérateur densité maintenant, rho chapeau de phi. Et puis je mets ici AB, c'est les deux amplitudes A et B de chacun des états cohérents que je mélange. Donc rho AB de phi, c'est 1 sur 2π, somme de 0 à 2π de d phi A. A et puissance phi A, le projecteur sur l'état cohérent A et puissance phi A, que multiplie le projecteur sur l'état cohérent B et puissance I phi A moins phi, intégré sur phi A. On calcule les éléments de matrice de rho AB de phi entre NA, NB, N'A, N'B. On tombe sur ce nombre-là, que multiplie cette intégrale sur phi A. Alors, je m'excuse, dans les notes, j'ai mis si phi, c'est phi A. Hein. Corrigé. On tombe sur cette intégrale, et cette intégrale me donne tout de suite delta de NA plus NB, moins N' plus N'B. J'obtiens un résultat très satisfaisant physiquement, les seuls éléments de matrice de l'opérateur de densité rho au chapeau n'existent qu'entre deux états où Na plus Nb est égal à N' A plus N'B. Le nombre total de particules ne change pas. Rho chapeau n'a pas d'éléments de matrice entre deux états qui auraient des nombres de particules totaux différents. Attention par rapport à tout à l'heure, c'est un peu plus général maintenant parce que Na plus Nb n'est plus égal à N. Hein, il peut prendre maintenant n'importe quelle valeur. Mais Na plus Nb prend une valeur et N' A plus N'B prend la même valeur. Donc, rho AB de phi est un mélange statistique d'états où le nombre total de particules est fixé. Mais peut varier d'un état du mélange statistique à un autre état du mélange statistique. Alors, je vais faire maintenant le lien entre les états cohérents et les états de phase. Il y a un lien très simple que je vais essayer d'expliciter. Comme rho AB de phi n'a pas d'élément de matrice entre deux états de nombre total de particules différents, je peux écrire rho AB de phi égale somme sur N de rho AB de phi pris en sandwich entre deux projecteurs sur le sous-espace d'état à N particules. Pn, Pn. Normalement, il faudrait mettre Pn, Pn prime et sommer sur N prime, mais comme N prime doit être égal à N, j'ai une somme somme. Bien. Et si je reviens à l'expression précédente de rho AB de phi ici, je m'aperçois que ça se factorise en deux morceaux, un morceau qui dépend de A, B, phi A, et un morceau qui dépend de un morceau qui dépend de A, un morceau qui dépend de B, et je m'aperçois aisément, vous pouvez vérifier le calcul facilement, que cet opérateur-là, Pn, rho AB de phi Pn, peut se mettre sous la forme qui n, projecteur de l'état qui n, où l'état qui n, c'est e puissance moins a2 plus b2 sur 2, somme sur na plus nb égale n, de ana bnb sur ce produit de racine de factoriel na factoriel nb, puissance moins inb phi na nb. Que je peux encore réécrire très légèrement, en sommant, au lieu de sommer sur na et sur nb avec la condition na plus nb égale n, je peux sommer sur na de 0 à n et sur nb égale n moins petit n. Je peux réécrire ce cette manière suivante. Et si j'introduis les deux nombres réels, alpha égale a sur racine de a2 plus b2, b, bêta égale b sur racine de a2 plus b2 avec évidemment alpha 2 plus bêta 2 égale 1, l'état qui n qui est ici peut se réécrire e puissance moins a2 plus b2 sur 2, a2 plus b2 à la puissance n sur 2 sur racine de factoriel n, que multiplie cet état-là, somme sur n de racine de factoriel n sur factoriel n moins petit n factoriel n, alpha à la puissance grand n moins petit n, bêta à la puissance petit n, et puissance moins n phi grand n moins petit n, et là je reconnais l'état de phase n phi. Autrement dit, l'état qui n, c'est un état de phase, à un coefficient près. Et par conséquent, il y a un lien très simple entre les états cohérents relatifs et les états de phase, qui est marqué ici. Rho AB de phi, l'état cohérent relatif, c'est un mélange statistique d'états de phase, avec le même phi que Rho AB, mais avec un nombre n de particules qui varie, qui n'est pas bien défini, qui varie suivant une loi de Poisson, une puissance moins A2 plus B2, A2 plus B2 à la puissance n, sur factoriel n. Donc il y a un lien très étroit entre les états cohérents relatifs et les états de phase relatifs, mais comme nous allons le voir plus loin, il est beaucoup plus commode de travailler avec des états cohérents relatifs parce que les états cohérents sont des états propres de l'opérateur d'annihilation A et les bras cohérents sont des états propres de l'opérateur à croix, les bras propres de l'opérateur à croix d'une part, et d'autre part, dans les phénomènes de relaxation, l'évolution d'un état cohérent est beaucoup plus simple à calculer. Donc, un certain nombre de signaux de détection sont extrêmement faciles à calculer avec les états cohérents. Donc, pour décrire un système de deux condensats qui n'ont pas une phase absolue bien définie chacun, mais qui ont une phase relative bien définie, il est très commun d'utiliser les états cohérents relatifs. Enfin, bien sûr, une fois que j'ai un état cohérent relatif rho AB de phi, je peux prendre un mélange statistique d'états cohérents relatifs avec toutes les valeurs possibles de phi. D'accord ? Et à ce moment-là, j'obtiens ceci, et je vois apparaître le même calcul que j'ai fait tout à l'heure pour les états de phase relatifs. Et dans l'analyse que je ferai ultérieurement d'une expérience d'interférence, on pourra partir d'un état cohérent relatif avec une phase relative complètement équipartie entre 0 et 2π, W de phi égale 1, Et en regardant au fur et à mesure que la figure d'interférence se construit, que les atomes sont détectés les uns après les autres, on verra, on pourra calculer l'évolution de W de phi et montrer que W de phi passe de manière progressive d'une distribution plate à une distribution qui est de plus en plus piquée, ce qui montre que le processus même de mesure du système de Franck fait apparaître une distribution de phase d'autant plus piquée qu'on a fait un nombre de détections de plus en plus grand. Et ça sera facile à faire avec l'utilisation des états cohérents relatifs. Donc je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, je vais commencer à étudier donc les problèmes d'expérience d'interférence entre deux condensables.